L'histoire de Paul se poursuit aujourd'hui dans l'épître aux Galates et je suis un une attention a été attirée par la notion du temps. 14 années. 14 années se sont écoulées depuis sa conversion. Et on aurait envie de dire qu'est-ce qu'il fait depuis 14 ans, quoi. Et alors c'est important de prendre bien en compte cet espace de temps, d'apprentissage. Nous sommes très pressés aujourd'hui. Nous n'avons jamais le temps de faire quoi que ce soit. Il manque toujours du temps. Et là, pour quelque chose de révolutionnaire, dont l'avenir du monde peut dépendre de la parole, il prend le temps, quoi. Et en fait, la place du temps dans nos vies, c'est quoi? L'heure de Dieu, c'est quoi? Souvent, ce qu'on fait sans prendre le temps nous le rend. C'est un peu comme un repas avalé trop vite, bah, l'organisme y réagit. Hein. Ce qu'on fait sans prendre le temps de le faire, le temps nous le rend. Ça ne s'inscrit pas, ça ne prend pas. Je sais pas si vous avez déjà fait du pain avec du levain, même chimique, pas forcément fait à la main, bah, il faut du temps, quoi. Il faut le temps que ça monte, que ça fermente. Et quand c'est la pleine lune, c'est le bazar. Mais voilà, il faut du temps. Pour faire un enfant, il faut 9 mois. Pour gestation d'un éléphant, il faut 2 ans. Pour faire un homme, il faut toute une vie, quoi. Et donc, d'abord ce temps personnel, et puis le temps du discernement, de l'écoute, devant l'exposition de l'évangile de Paul. Il dit qu'il a exposé devant la communauté. Il pourrait dire qu'il a passé un examen. Il a passé un examen pour quelque chose d'extrêmement grave. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il a compris ce que Jésus est venu faire? Voilà. 14 ans, va, je veux dire, ça fait le temps de 3 doctorats. Hein. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est grave et sérieux. La formation, c'est sérieux. Voilà. Et puis enfin, le troisième temps que je vois ici, c'est le temps de la cohérence. Donc Pierre est blessé par ce qu'on appelle le respect humain. Voilà, le respect humain, c'est qu'on sacrifie ce qu'on pense devoir faire à ce qui se fait extérieurement, ce qui se voit, ce qui est préférable, ce qui est dans notre avantage, comme on dit. Voilà. Et en fait, il a peur de déplaire aux siens, à sa race, à sa famille, et cela le conduit à une injustice évangélique. Une injustesse, on pourrait presque dire, évangélique. Et Paul le remet en place. Ce qui est assez impressionnant quand même, hein. Parce que Pierre, c'est pas tout à fait rien, quoi. Et voilà, et cette plongée dans les origines de l'Église, bah, ça nous parle un peu aussi de la fameuse synodalité, là. Voilà. Pas parce qu'on est Pierre que on n'a pas besoin d'être conseillé, d'être informé sur des incohérences. Voilà. Il y en a eu beaucoup dans l'Église. Dans les hommes, enfin, dans l'Église, il faut s'entendre quand on parle de l'Église, c'est toujours très compliqué, hein, parce que l'Église, elle est sainte et immaculée, mais elle est composée de 100% de pécheurs, sauf une, la Vierge Marie. Le Christ étant la tête de l'Église, donc l'Église est le corps, on distingue les deux. Et donc, les membres de l'Église, nous sommes tous des pécheurs, des pauvres pécheurs. Et Pierre le montre très très bien ici, involontairement, mais il le montre, et voilà, et bien souvent dans l'Église, ben, nous avons négligé ceci, négligé telle catégorie de personnes, été attentif à telle autre catégorie de personnes. Voilà, on fait attention à ceci, mais pas à cela. Ben, c'est pas juste. Alors dans l'Évangile, c'est un autre temps, c'est le temps de la prière, ou plus exactement de l'apprentissage de la prière. Et c'est intéressant de voir que l'Évangile commence par un jour quelque part. Bon, avec cette expression complètement débile de quelque part, là, de cette feignasserie qui ne veut pas dire d'où. Quelque part, oui, bah dit tout. Enfin, bon, bref. Donc là, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Hein, c'est l'origine du terme. Ça veut dire, bah, en fait, on ne sait pas très bien où, quoi. Un jour, on ne sait pas très bien où. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Eh bien, on peut tirer de ça que l'évangéliste, qui est Luc, on peut dire, oui, bah, il savait pas. Oui, ok, d'accord. Et puisque c'est inspiré, ça peut aussi vouloir dire. Ben en fait, il n'y a pas de lieu où on ne puisse pas prier. Il n'y a pas de jour où on ne puisse pas prier. Il n'y a pas de nuit où on ne puisse pas prier. En fait, c'est tout le temps de la prière. La possibilité de la prière est offerte en permanence. La prière est au fond une respiration. Jean Guiton disait de Padre Pio, il respirait dans la Christosphère. Bon, c'est des expressions à Jean Guiton, mais. Voilà, respirer le Christ, comme il est dit dans la vie de Saint Antoine. Monial qui m'avait fait remarquer ça. Respirer le Christ, voilà. Donc on prie n'importe où, c'est toujours possible. Ensuite, il y a l'aspect de transmission, un peu comme dans l'Épître, avec Saint Paul, comme Jean-Baptiste. Apprends-nous comme Jean-Baptiste, transmets-nous. Comment on fait? C'est quoi? On fait comment, quoi? La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, parce qu'en fait, quand on est tombé dedans, quand on était petit, c'est assez simple. Mais quand on est converti, ben, moi, je me souviens d'une jeune femme mariée, une vingtaine d'années, convertie d'un milieu communiste, hein, et qui vient me dire, vous pouvez me dire comment on prie? Ben, je me suis retrouvé un peu feinté parce que. Non pas que je sois en permanence en prière, mais quand on a appris ça parce que sa maman vous a appris, ben en fait on n'a pas eu à chercher comment on faisait, on l'a reçu directement. Et Jésus là fait la même chose, il leur dit pas bah ben, cherchez, il leur transmet. Il leur transmet une prière qui est probablement celle qu'il est en train de faire, et Jésus s'exécute aussitôt. Voilà, donc Jésus transmet l'importance de la transmission. On peut le mesurer par la rupture, donc par l'inverse de la transmission. Les dégâts de la rupture bon, on prend la date emblématique de mai 68, mais le drame de la non-transmission, quoi. Les générations plus jeunes aujourd'hui, qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, sont formés à l'université pour trouver par eux-mêmes. Et alors c'est très frappant de voir que cette jeunesse, dans certaines situations, il faut toujours pas généraliser, ne pose pas de questions en fait. Ils vont pas voir un ancien qui sait. Ils vont chercher par eux-mêmes. Alors qu'une génération plus ancienne se dit, tiens, lui c'est un forgeron topissime, je vais lui demander comment il s'y prend. Et je comprendrai peut-être. Et je vais peut-être pouvoir m'adapter. Ben voilà, c'est de la transmission. Alors, ça n'a pas grand-chose d'évangélique, là. Mais l'importance de la transmission, l'importance forcément hein, des grands-parents dans les familles, etc. Dans toute cette rupture de la transmission, Reynald Secher dit que en fait la fin d'une certaine transmission, c'est l'arrivée du chauffage central. Alors ça met dans l'hilarité un certain nombre de personnes parce que c'est cocasse. Mais ben oui, à partir du moment où il y a le chauffage central, on peut être chacun dans sa chambre. Avant, on était tous autour du feu pour se réchauffer et on entendait les histoires des anciens. Voilà. Donc cette prière, eh bien, vous remarquerez qu'il n'y a pas je. C'est pas je, c'est toi. Vous vous souvenez de la prière du pharisien. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je fais ceci, je fais cela. Moi, je, quoi. Et parfois, nous avons cette capacité assez bouleversante d'être dans la même phrase, sujet, verbe et complément. Alors les autres, bah, et Dieu encore moins. Hein. Et voilà, et donc on s'adresse à qui? On s'adresse à un Père. Alors évidemment, ça peut être difficile pour certains. D'abord parce qu'on peut ne pas avoir de Père, ne pas le connaître, ne pas savoir qui c'est, avoir une très très mauvaise relation avec son Père, avoir un Père qui est fada, etc., etc., etc. Donc cette difficulté est réelle. Et dans les psaumes, Dieu est appelé, c'est un très 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 beau nom qui est... Bon, moi je ne l'ai pas souvent entendu mis en valeur. Père des orphelins. Pater orphanorum. Celui qui est le père de ceux qui n'ont pas de père. Ce qui est assez génial quand même. Hein. Père des orphelins. Voilà. Donc en fait, ce père, c'est celui que tu voudrais avoir. Qui aurait toute cette bonté dans le. Dans le regard, dans l'accueil, dans la voix. Quelqu'un nous disait récemment, vous savez, ce qui fait qu'un pénitent, c'était une session sur la pénitence, vient revoir un confesseur, c'est qu'il est bon. C'est pas tellement ce qu'il a dit ou pas dit, mais c'est qu'il est bon, c'est qu'on est accueilli, il est chaleureux, il est voilà. Bon, ensuite, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais voilà, donc évidemment cette paternité ne correspond pas à nos images de la paternité. Et que ce nom soit saint. Voilà, que ton nom soit sanctifié. Alors quand il y a ce passif en grec, ça signifie sanctifie ton nom. Sois sanctifié par qui? Ben, par toi, donc sanctifie ton nom. Donc mais montre-nous combien il est à part. Hein. Sanctus, c'est comme... Kadosh en hébreu, ça veut dire séparé originellement. Donc quand on dit vous serez saint comme Dieu est saint, ça veut dire vous serez séparé comme Dieu est séparé. Vous vous mêlerez pas aux rites païens, aux choses qui n'ont pas de sens. Voilà, vous serez de côté, pas pour regarder, mais parce qu'il y a quelque chose de plus important pour vous. Le règne de Dieu, donc que ton règne vienne. Alors cherchez d'abord le règne de Dieu, c'est quoi? C'est quoi chercher d'abord le règne de Dieu? Parce que c'est quand même un peu la question là. Et le reste vous sera donné par surcroît. Ben, le règne de Dieu, c'est que Dieu soit le roi dans notre cœur et qu'il y prenne toute la place. Donc c'est ça que ton règne vienne. Fais en sorte que tu prennes toute la place. Parfois dans les confessions, les gens disent j'ai pas mis Dieu à la première place. Bon. Alors, quand je suis un peu espiègle et que la personne peut l'entendre, je lui dis, et vous pensez qu'il y a une... Il y a toute la place. Voilà. Ah oui, mais alors mes affaires, ben tu les fais avec lui. C'est, nous sommes faits pour vivre avec, pas pour vivre sans, contre, dans l'indépendance, que sais-je. Voilà, donc être présent à Dieu, comme nous le sommes à la lumière. On peut pas faire que la lumière soit pas là quand il fait jour. Ben Dieu, il est là. Est-ce que nous y sommes présents? Ou est-ce que nous sommes dans nos histoires. Et ensuite, nous avons la demande du nécessaire matériel et vital, le pain, mais aussi la couverture, relations sociales, que sais-je, enfin, ce qui est nécessaire pour notre vie. Et puis ensuite vient le nécessaire spirituel et vital, qui est le pardon et la miséricorde. Bon, là-dessus, il y a un apophthegme des Pères du désert. Donc une parole particulière des Pères du désert où on raconte qu'un que dans le désert, il y avait un moine qui n'arrivait pas à pardonner ce qu'un autre lui avait fait. Je suppose qu'il avait fait, il lui avait piqué quelque chose, j'en sais rien. Et donc il va voir un ancien et lui dit, Père, je n'arrive pas à pardonner à mon frère. Ce qu'il m'a fait est trop dur. Alors là-bas, lui dit, bon, écoute, viens, nous allons prier ensemble. Alors ils disent le Notre Père. Et au moment de cette demande du pardon, il dit, et ne nous remets pas nos dettes, comme nous ne remettons pas non plus nos dettes à ceux qui nous ont offensés. Alors le jeune fait une métanie et il part et il va pardonner à son frère. Il a compris, quoi. Voilà, des fois de dire les choses à l'envers, ça permet de nous dire, ouais, bah finalement je vais pas faire comme je pensais avoir envie de faire. Et puis finalement la tentation. Alors la tentation, c'est un peu délicat, hein. Est-ce que c'est pas la tentation de tenter Dieu finalement? Est-ce que c'est pas cette tentation à laquelle est soumis Job? De dire non, non, Dieu m'a escroqué finalement. Est-ce que c'est pas cette tentation-là? C'est pas juste, quoi. C'est pas juste. Voilà. Au lieu d'entrer dans cette certitude que Dieu sait, quoi. Certitude de foi est pas évidente, hein, attention, hein, mais voilà, tentation de tenter Dieu, peut-être que c'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc finalement, prier, c'est devenir fils et fille de Dieu et l'être en vérité de plus en plus. Au fond, c'est ce à quoi nous conduit la prière. Puisqu'elle commence par le mot Père. Si elle commence par le mot Père, ça veut dire que nous sommes constitués, institués, on peut dire, hein, institués fils et filles de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu nous apprendre. Nous sommes fils, nous avons part à l'héritage du fils. C'est hallucinant, hein. C'est vrai que le père des orphelins, Dieu est notre père, c'est-à-dire que Jésus nous a dit, voilà, j'ai un père qui veut t'adopter, est-ce que tu es d'accord? Et donc nous sommes frères et sœurs authentiquement de Jésus. Donc nous avons part au même héritage. Enfin, c'est tout l'évangile, hein. Alors, c'est quand même ahurissant, quoi. Donc prier, c'est finalement, c'est ça, hein, ultimement, c'est devenir de plus en plus fils et filles de Dieu et l'être en vérité. Eh bien, réjouissons-nous de cette merveilleuse nouvelle.